C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Kati.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui alerte sur la prolifération des discours dangereux en République démocratique du Congo. Ici, on analyse les discours, les mots et leur impact sur notre vivre ensemble. Je m'appelle Freddy Bikumbi Ignace et aujourd'hui, je suis accompagné de Babel Mpongo. Bonjour Babel.
Bonjour Freddy, bonjour à toutes et à tous. Les crises se multiplient à travers le monde, Freddy. Les critiques contre les dirigeants aussi. Et les plateformes numériques deviennent souvent des lieux de tension, de dérapage et parfois d'insultes.
La RDC n'échappe pas à cette tendance. On l'a vu récemment, par exemple, lorsque le président de la République a reçu et félicité les Léopards, l'équipe nationale, après une victoire importante dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde. Pour certains internautes, ces célébrations au stade de martyrs à Kinshasa étaient inacceptables dans un contexte de guerre. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont parfois été très violentes. Propos outranciers, insultes, attaques personnelles.
Cet épisode qui pourrait sembler anecdotique, Freddy, est en réalité révélateur d'une tendance de fond, une radicalisation du langage dans les espaces numériques. Des internautes qui se sentent protégés par l'anonymat ou par la distance de l'écran et qui n'hésitent pas à employer des mots d'une grande brutalité. Cela pose une question. Sommes-nous encore capables de débattre, de discuter, de contredire les autorités sans forcément verser dans les extrêmes? Pour analyser ce phénomène, nous recevons aujourd'hui un invité, le professeur Boutoua Balingene, expert en sémiologie et en communication sociale. Bonjour professeur.
Bonjour madame, bonjour Bikumbi.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avant de commencer notre échange, nous allons écouter un premier extrait de notre sketch. La scène se déroule dans un campus universitaire avec des étudiants. On peut les entendre discuter, critiquer leurs dirigeants, mais très vite, on passe des critiques aux insultes et la situation dérape. On écoute cette séquence, puis on la décrypte juste après avec notre invité.
C'est tout
sérieux.
Quoi?
Ah non. J'ai vu ton poste sur Aman.
Et ça y est.
Mais comment t'as pu balancer ça? Surtout qu'il est censé être notre pote. Notre pote. Tu écris ce genre de choses.
Bon, là, je n'ai même rien dit. Hein.
Tu n'as même rien dit.
Je n'ai même rien dit. Franchement, il mérite même pas d'être notre chef. Non. On n'a pas besoin d'un mec qui bouge pas quand il faut nous défendre.
Ah ouais?
Non,
tu balances ça comme ça.
Oh. Et alors? Faudrait cacher ça. Non. Aman, c'est juste un ambianceur. Tout ce qu'il sait faire, c'est traîner aux petites fêtes et aux rendez-vous. C'est tout ce qu'il sait faire.
Sérieux.
Non, attends. Pour moi, c'est un vagabond pur et dur, pas un vrai leader qui gère le vrai problème que nous avons sur le campus.
Hein, Kitoko? Je ne peux pas te laisser continuer à demander de rester comme ça. Même s'il ne fait pas tout parfaitement, il essaye de bouger les choses.
Ah,
c'est déjà
pardon,
un grand pas.
Pardon.
Tu ne peux pas écrire ce genre de choses.
Il est chef, pas empereur ou dieu. On peut le critiquer, l'insulter comme on veut. Et t'inquiète, je vais poster un truc encore plus tranchant.
Non, arrête ça.
Arrête ça, Toko.
Peux le regretter. Tu ne connais pas ce genre de choses. On peut avoir des répercussions sur
toi-même. Toi, t'es qui pour m'empêcher de critiquer? Tu es qui, toi? Allez, dégage.
Et voilà, vous avez suivi, il n'est que chef, pas empereur ou dieu. On peut les critiquer et t'inquiète, je vais poster un truc encore plus tranchant. Menace l'un des personnages. Professeur Boutoua Balingene, dans une société démocratique, le peuple ou la population a en principe le droit de commenter les actions et critiquer ses dirigeants. Mais quelles sont les règles et principes qui encadrent ces droits?
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a beaucoup, beaucoup de règles, mais je veux seulement me limiter à quelques-unes. La première règle, bon, c'est que vous savez que même en communauté démocratique, la critique des autorités est encadrée par des principes de liberté, de souveraineté, mais des limites, dans les limites légales. Ainsi, première règle, si l'on voudrait critiquer une autorité, bien sûr, jouir de sa liberté d'expression, mais il ne s'agit pas là d'être liberticide. C'est-à-dire, vous agissez dans une liberté qui dépasse les limites, là vous tuez la liberté. Deuxième principe, la souveraineté populaire, c'est-à-dire le pouvoir du peuple légitime la critique. C'est bien, le peuple a un pouvoir de critiquer, mais il faut que cela se passe dans une certaine souveraineté qui respecte les droits et les devoirs. Ainsi, la population, par la critique, participe à la vie politique, même à part des contestations, mais en suivant la loi, j'insiste. Troisième règle, le respect des droits fondamentaux. La critique doit se faire dans le respect de la dignité des personnes et dans les lois. J'ai entendu quelqu'un dire, bon, il n'est qu'une personne, je peux... Non, c'est une autorité, même si elle commet des fautes, il faut respecter ses droits et ne pas dire n'importe quoi de cette personne, commencer à l'injurier... en dehors de la règle. Non, il faut respecter la règle. Autre chose, autre règle, l'absence des affirmations et des injures ou d'autres provocations, d'affirmations qui n'ont aucun fondement. Il faut que la critique soit fondée sur des faits réels, justes, pas des fabrications, des messages qui n'ont, je répète, aucun fondement. Si l'on respecte ces lois, la critique devra se faire dans un cadre qui ne va pas blesser, qui ne va blesser personne. Même l'autorité critiquée de cette façon pourra se mettre sur la balance et dire quand même, ils ont dit quelque chose, je peux suivre. On ne doit pas critiquer pour injurier sans aucun objectif, seulement pour embrouiller. Non, il faut un objectif précis. Et pour y arriver, il faut y aller méthodiquement, sinon on risque de s'attirer des amis inutilement. Voilà quelques principes que nous pouvons utiliser.
Merci professeur, mais bien souvent, professeur, on passe rapidement de la critique qui est légitime dans un état démocratique à l'insulte, voire à la déshumanisation de la personne visée. Alors d'un point de vue sémiologique, qu'est-ce qui se joue quand on passe de la critique d'un acte politique à l'attaque directe contre la personne, son identité et sa valeur morale?
Merci Babel. Du point de vue sémiotique et sémiologique, le passage de la critique d'un acte politique à l'attaque contre la personne marque un changement de registre dans la production du sens. La critique dans un cadre démocratique porte sur les signes d'un acte, bon, une décision, un discours, passation de pouvoir politique, et ainsi de suite. Il doit y avoir un fait. Et elle passe... Dans un cadre où l'on s'inscrit dans l'ordre d'un discours qui doit être rationnel, où l'on interprète des faits et non des imaginations comme j'étais en train de le dire. Mais lorsqu'on glisse vers l'insulte ou la déshumanisation de quelqu'un, on change de cible sémiotique. Là, on utilise non correctement le signe parce que on commence à vouloir prendre l'autre dans un cadre qui ne rentre pas dans le sujet ou dans l'objectif, et l'on commence à faire du n'importe quoi, on commence à stigmatiser l'autre, on commence à le déshumaniser, on commence à vouloir le ridiculiser, ce qui n'est pas sur le plan sémiologique accepté. Parce que la sémiologie, c'est la manipulation des signes, l'interprétation des signes. Quand vous utilisez mal le signe, déjà, vous vous induisez vous-même en erreur et vous induisez votre public en erreur. Et avec comme conséquence, quand vous manipulez très mal le signe, vous risquez de tomber dans les violences, vous risquez de commencer à marquer des identités criminelles, vous risquez de vous attirer des ennuis par l'autorité qui a le pouvoir et qui peut agir d'une manière négative pour vous faire du mal parce que vous l'avez provoqué, vous l'avez injurié, vous l'avez déshumanisé. Ce que je veux dire ici sur le plan sémiotique, je conseille aux uns et aux autres qui veulent critiquer. Il n'est pas interdit de critiquer, mais la critique doit être faite dans la norme, avec respect, tenir compte des faits, bien choisir le langage à utiliser, et aussi se mettre à la place de l'autre. On parle aussi de l'empathie. Si c'est vous qui êtes le chef et que l'on vous critique comme cela, comment alliez-vous réagir?
Oui, professeur, on remarque bien souvent, c'est vrai qu'il y a des glissements hein, des langages, des insultes, des propos extrêmes. Et qu'est-ce que ces glissements-là peuvent nous montrer, au fait, hein, sur l'état de notre espace public et sur les rapports de confiance ou de défiance entre les gouvernés et les gouvernants?
Vous parlez des glissements de langage. Quand vous glissez vers la déshumanisation, vers les injures, et que vous êtes dans un contexte X, je parle à mes étudiants et je leur dis, la communication paye cash. Vous commettez une erreur en communication, vous glissez vers des éléments qui ne rentrent pas vers le contexte, attendez-vous à votre paiement cash. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce glissement-là? Bon, bien sûr, on est dans un espace public qui peut être fragilisé par des émotions. Et si vous ne vous rendez pas préalablement compte que cette fragilisation peut vous attirer des ennuis, vous aurez votre salaire cash pour n'avoir pas respecté les principes d'une bonne communication. Évitez le glissement du langage en tenant compte du contexte dans lequel vous vous retrouvez. Mais la plupart des fois, nous assistons à des cas où les gens agissent par émotion. Ils n'ont pas eu le temps de bien préparer leur communication. S'il vous plaît, ne communiquez pas si vous n'avez pas préparé votre communication. Sinon, vous allez commencer à agir sous émotion. Il faut avoir des débats d'idées et non des débats de considérations identitaires, des considérations émotionnelles qui ne sont fondées sur aucun fait. J'ajoute un autre élément, Babel. Lorsque vous constatez que vous commencez à vous affaisser dans ces émotions, s'il vous plaît, prenez un arrêt et parlez d'une manière positive. Et si vous parlez d'une manière positive, cela va vous éviter une crise de confiance. La personne à qui vous parlez, même si vous êtes en train de critiquer, aura confiance en vous, peut-être pourra même recourir à vous pour donner conseil à un autre tour, une autre fois.
Merci pour ces analyses, professeur Buto Abalingene. Nous allons maintenant écouter un deuxième extrait de notre sketch, toujours avec nos amis étudiants. Les discussions deviennent de plus en plus tendues et les propos de plus en plus violents et les conséquences arrivent.
Non, Kitoko, je t'en prie, hein. Supprime ton poste et tes commentaires négatifs maintenant.
Non.
Regarde, ça maintenant, sinon je te dénonce.
Non, je supprime rien.
Maman, sinon je te dénonce.
Je supprime rien. Ce que je dis, c'est la vérité. Il a préféré aller mater un match pendant qu'on négociait le bourse.
Ah, maman. Mais mon chef peut pas être partout et tout géré. T'as pas le droit de lui manquer du respect comme
ben
ça.
Ben si, j'ai le droit.
T'as le droit en tant que...
Si j'ai le droit de critiquer, qui bosse pas, j'ai ses droits. Ou alors on est dans une dictature ici.
Non, mais critiquer, c'est pas insulter.
Oh, critiquer, c'est pas insulter.
Arrête de faire comme si de rien n'était. Hein?
Pardon.
Ça part en vrille. Regardez. Regardez les commentaires hostiles à Mani. Tombe de partout. Ça ne parle plus de faits.
Genre quoi?
C'est plus que des insultes.
Genre quoi? Genre quoi?
Ben, il y a des gens qui disent que Aman c'est un soulard. D'autres disent que non, son rêve était en fait juste d'occuper ses postes. Pas pour aider les étudiants, mais pour draguer les filles.
Et alors?
Hein?
Et alors?
Non.
Pourquoi ça choque? Pourquoi? C'est la vérité, non?
Waouh!
Quoi?
Super nouvelle.
Qu'est-ce qu'il y a?
Super bonne nouvelle. Regarde, les messages viennent de tomber dans mon téléphone.
Attends, c'est là. Quelle bonne nouvelle, explique.
Bon, attends, mais la direction a décidé.
Quoi?
Tous ceux qui ont posté des insultes sur Ramani vont être virés du campus.
Aman n'est qu'un soulard. D'autres disent que son rêve, c'était juste d'occuper ce poste, pas pour aider les étudiants, mais pour draguer les filles, lancelant les étudiants. Professeur Baligéné, est-ce qu'on peut parler de langage dangereux lorsque dans un pays, systématiquement, les critiques contre les autorités, souvent légitimes, se transforment en attaques personnelles, en invectives ou en insultes?
Oui, madame. On peut parler n'importe où. Le langage non maîtrisé devient un langage dangereux. Le langage est un outil social. Il faut s'en servir pour régler des problèmes dans la société et non pour en créer. Si vous utilisez le langage pour créer des problèmes, à ce moment-là, vous utilisez un langage dangereux. Il y a souvent des proverbes parmi lesquels je cite « Toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la façon de dire la vérité aussi doit être encadré par un bon langage. Parce que vous pouvez avoir une vérité pour améliorer ceci ou cela. Si vous ne l'encadrez pas par un bon langage, ce sera un langage dangereux qui, au lieu de construire, va détruire. Bien sûr, comme disait certains et quelqu'un là, j'ai le droit, mais vous avez le droit, mais ce droit-là, vous devez l'encadrer par un bon langage. Et non par un langage dangereux. J'ai parlé du mot contexte, et le langage est dangereux selon le contexte dans lequel vous vous retrouvez. Même une salutation peut, dans un contexte X, être considérée comme un langage dangereux. Si vous arrivez devant quelqu'un qui est en problème, vous le saluez d'une certaine manière. Cette salutation-là peut être un langage dangereux et créer des dégâts dans la société. Bon, je sais que tout le monde, la plupart les communicologues savent que lorsqu'un espace public se caractérise par la transformation systématique des crises, parfois légitimes, en attaques personnelles ou bien en invectives, cela traduit un affaiblissement de la culture démocratique et un glissement vers une communication conflictuelle potentiellement qui détruit la société au lieu de la construire. Chers amis, chers politiciens, chers analystes, utilisons un langage qui construit et non un langage qui détruit.
Ces paroles négatives outrancières envers les autorités sont-elles plus dangereuses dans un contexte de crise ou de conflit, comme c'est le cas actuellement dans l'est du pays Babel?
Oui, professeur, est-ce que c'est plus dangereux dans le contexte de guerre, par exemple, ou de crise que nous connaissons?
J'ai parlé du contexte. Examinez d'abord le contexte. Le contexte est défini globalement comme le où, le quand, le qui, le pourquoi, le comment. Examinez tout ce... Nous sommes en guerre, nous sommes en crise, et vous vous mettez à utiliser un langage dangereux pour critiquer ceci ou cela. Au lieu de critiquer avec intention positive, vous insistez sur ce qui est négatif. Vous êtes en train de mettre le feu sur l'huile. Choisissez un langage doux, un langage qui contribue à la résolution des conflits. Mais si vous utilisez un langage qui met à mal la personne à qui vous parlez, vous renforcez sa radicalisation. Fragilisez le respect mutuel. Vous alimentez la polarisation sociale. Vous banalisez même la violence parce que vous utilisez des termes pour que la violence continue. Non.
Oui, professeur, bien souvent, hein, on remarque que ces insultes, cette violence verbale contre les autorités profitent aussi de l'anonymat qu'offrent les réseaux sociaux pour s'exprimer. Est-ce qu'il y a un risque que cette cyberviolence verbale débouche sur des conséquences dans le monde réel?
Bon, même si il y a une sorte d'anonymat dans les réseaux sociaux, mais quand même, le message passe. Si le message est mal construit, le message est mal transmis, le message est hors contexte, le message renforce les positions radicales, bon, même s'il y a anonymat, les conséquences sont là. C'est pourquoi j'insiste, utilisons un langage positif, même dans les réseaux sociaux, même s'il y a anonymat, sinon vous risquez de mettre le feu sur l'huile.
Merci encore une fois pour ces explications, professeur Buto Abalingene. Je vous invite à présent à suivre le troisième et dernier extrait de notre sketch, toujours avec les étudiants. Ils finissent par réaliser les dangers des propos outranciers, injuriés, qu'ils expriment en guise de critique.
Là, juste pour quelques commentaires.
Quelques commentaires. Mmh. Quelques commentaires. Non, mais... Si on ose aussi dire quelques commentaires.
Attends, on peut plus parler ici ou quoi?
Donc tu te reproches de rien?
Non.
C'est ça?
Non, pas
tu
ça.
Te
pas ça. Mon poste, c'était juste pour, comment dirais-je, pousser Amani à assumer ses responsabilités. C'était ça. Qu'il gère ses priorités et obtienne le bourse pour tout le monde. C'était ça, en fait. Faut vraiment qu'on se fasse taper dessus pour ça.
Ouais, mais il y avait un moyen de critiquer tranquille, sans manquer de respect au chef. Et toi, tu l'as fait. Donc, on ne peut pas aller dans ton sens. Tu as mal parlé, tu vas assumer les conséquences, point.
Ben, bon, voilà. Écoute, j'ai pensé que ce qui est grave, c'est que d'autres vont se faire virer à cause de moi. Vous voyez un peu? Donc, et nos relations avec les collègues, ça va partir en vrille. Ça, je le reconnais.
Quand tu balances des insultes au lieu de critiquer sur les faits, ça, c'est pas respecter le chef. Même ceux qui veulent régler leur compte en profitent pour salir. Donc,
si l'ambiance est pourrie entre la direction et les étudiants, au lieu de régler les problèmes, ça chauffe encore plus. S'il vous plaît, il faut critiquer intelligemment et avec respect. Chef Moulunda Ototo, chef ou chef?
Mouta, vraiment, j'ai compris la leçon. Mais, Mouta, je t'en supplie. Nabonde Lio, vraiment, je t'en supplie. Va demander pardon pour moi. Mouta, demande pardon pour moi. Qu'ils annulent la décision de nous renvoyer, s'il te plaît.
Désolé qu'ils te...
Pardon. S'il te plaît, fais ça pour moi.
Non. C'est ça le prix à payer quand tu t'éclates à insulter.
Oui, c'est bien critiqué. Mais,
il faut critiquer, mais avec respect, finit par admettre l'un des étudiants, qui finit d'ailleurs par reconnaître l'une des règles de la critique que vous avez évoquée un peu plus loin, professeur Balighine. Mais, professeur, que faire lorsqu'on est une autorité et que l'on fait face à des insultes, à des attaques personnelles en lieu et place des critiques constructives?
Je suis très, très content d'abord de revenir sur la conclusion de notre sketch. Là. Vous savez, lorsqu'on commet une erreur, et que l'on se reconnaît avoir commis une erreur, on cherche comment trouver la solution. C'est ça l'essentiel. Le problème, c'est la résolution de ce problème. Une autorité qui fait face à des insultes, des attaques personnelles en lieu et place des critiques constructives, devra aussi se mettre à la place de ces gens-là. Si j'étais ces gens-là, j'agirais comment? Il doit se mettre aussi, l'autorité doit se mettre un peu comme sur une balance, se peser. Qu'est-ce que j'ai fait du mal pour mériter ceci? Aujourd'hui, en classe, j'étais en train de développer, de parler de la philosophie du doigt, de l'index. Quand vous indexez une fois les autres, il y a quatre autres doigts qui vous indexent vous. C'est-à-dire les erreurs, les bonheurs que nous allons vivre. dans notre vie dépendent quatre fois plus de nous, soit de nos agissements, soit de nos regards, soit de nos imprudences. Le chef doit aussi analyser le contexte. S'ils ont agi comme ça, quelle en a été la cause? Qu'est-ce que j'ai fait et que je ne devrais pas faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceci ne m'arrive plus?
Oui, professeur, et du côté des citoyens, quelle attitude on doit adopter hein, lorsqu'on n'est pas d'accord avec certaines actions des autorités que l'on souhaite exprimer des critiques? Comment le faire?
J'ai déjà dit, on a le droit de revendiquer. Mais la revendication doit se faire selon la norme. Chaque société a ses principes. Vous n'allez pas commencer à m'insulter alors que vous n'avez jamais eu l'occasion de venir me parler sur les difficultés, sur certaines choses qui ne marchent pas bien que vous avez constatées dans la société. Commencer par les insultes, c'est déjà gâcher la bonne marche de la société. Donc, un problème apparaît, ce problème doit être analysé, aller rencontrer la personne concernée, poliment, parler lui, mettez-le devant les faits, et l'autorité, si vous l'abordez correctement, a aussi la possibilité de fléchir et d'harmoniser avec vous. Bien sûr, il y a aussi de ces autorités qui ne reçoivent pas les plaintes, qui ne reçoivent pas la population pour l'écouter. Il faut avoir un moment, un jour ou deux par semaine, où je suis le directeur, je suis le chef, je dois avoir un moment où je reçois M. Baltin pour les écouter.
Alors, professeur, comment éviter de se laisser influencer par quelques voix extrémistes qui dominent souvent ces paysages médiatiques? Je prends les cas des réseaux sociaux.
Bon, les extrémistes existent partout. Il y en a partout, parmi les autorités, dans la population, hein, sur tous les réseaux sociaux ici qu'on nous a amenés. Il y a des gens qui sont là, qui ne font que diffuser des messages extrémistes. Comment ne pas se faire influencer? Il suffit de prendre conscience de son objectif. Si vous connaissez l'objectif que vous visez, je veux participer, je veux contribuer à l'amélioration des conditions de ma société, je vais donner conseil à mon chef pour qu'il ne puisse plus commettre des fautes. Bon, si vous avez pris conscience que vous avez une responsabilité, parce que le mal dans nos communautés, c'est que la population ne connaît pas qu'elle a aussi une responsabilité dans la gestion de la chose publique.
Comment concilier la liberté d'expression, qui est un droit fondamental, avec la nécessité de poser des limites claires au discours de haine, aux insultes et à la déshumanisation? Où placer cette limite et qui doit veiller à ce qu'elle soit respectée?
Bon, je viens de le dire, hein. Les deux parties doivent veiller à cette limite. Que ce soit la personne à critiquer, que ce soit la personne qui critique. Vous utilisez votre liberté de critiquer et vous y allez avec extrémisme. Si l'autre développe, comme je disais, une attitude pareille, toutes vos missions, vous deux, vont échouer. Mais si vous tenez compte de l'aspect que vous êtes aussi responsable, autant responsable que celui-là qui a parlé, vous n'allez pas casser le pont. Vous allez plutôt faire de sorte que vous puissiez agir correctement devant cette personne qui a mal parlé, cette personne qui n'a pas respecté la promesse, cette personne qui a commis tel dégât. Et moi, en voulant corriger, je dois utiliser un langage qui inspire confiance. Si j'utilise un langage qui n'inspire pas confiance, j'aurai brisé cette limite et il pourra continuer à agir de la manière que je suis en train de critiquer.
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Un grand, grand merci à notre invité, le professeur Bouto Abalingene, pour ses analyses sur les enjeux du débat public en République démocratique du Congo, qui, comme ailleurs, est de plus en plus pollué par des propos extrêmes, outranciers, voire insultant.
Et ce que nous retenons, Freddy, c'est que les réseaux sociaux peuvent être des espaces précieux de participation citoyenne, d'expression et de débat. Mais lorsqu'ils deviennent des lieux d'insultes, de dénigrement systématique et de déshumanisation, ils peuvent aussi fragiliser notre vivre ensemble et notre capacité à construire des solutions communes.
L'enjeu n'est pas de faire taire la colère ou les critiques, souvent légitimes, mais de trouver des manières de les exprimer sans détruire l'autre, apprendre à critiquer sans insulter, à contester sans humilier, c'est l'un des grands défis de notre vie démocratique à l'ère des réseaux sociaux.
Merci à Sylvain Baogueré qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité à ce programme. Vous écoutiez sur le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cette émission en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05 de Kinshasa ou en podcast sur www.radiookapi.net et www.abarirdc.net. Merci encore de continuer à nous écrire et à partager vos réactions sur nos pages Facebook et X. Au revoir.
Au revoir. À bientôt.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de bénévolat en partenariat avec Radio Okapi.